Invité vom Dach.
Invité vom Dach beim Maurice Molitor, aslo den Politolog Philippe Poirier, den Responsable vom Lehrstuhl für parlamentarische Etuden ob der Uni Lützebusch.
Bonjour, Monsieur Poirier.
Moyen.
Est-ce que la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale vous a surpris?
C'était la seule solution envisageable, car il était menacé d'une motion de censure dès la prochaine rentrée parlementaire. Ce qui a été surprenant, c'est le calendrier. Il aurait bien pu attendre septembre pour dissoudre. Il a voulu lui-même renverser la table. Mmh. Et ce renversement de la table, très rapidement, a même surpris les membres de son gouvernement qui n'étaient pas forcément au courant dans le dimanche après-midi même.
Mais il a été confronté à d'autres motions de censure déjà dans le passé. Donc vous dites qu'il n'y a aucun lien avec le résultat du scrutin européen ?
Non, il y a des liens avec les résultats du scrutin européen. Mais la motion de censure essentielle qui se préparait, notamment par l'un des groupes centristes, le groupe Liot,
qui est un tout petit groupe,
mmh. Mais c'était la motion qui, l'année dernière, avait failli passer à 9 voix vraies, près. Mmh. Et donc là, elle se préparait et le président de la République, dans une tradition française, n'a pas voulu se confronter à cette motion de censure parce qu'il y a une double légitimité. La légitimité du suffrage universel du Parlement face au suffrage universel direct aussi du président de la République. Mmh. Et aucun président de la République ne veut prendre le risque d'abaisser sa légitimité à travers une motion adoptée.
Avec l'annonce de la dissolution, il a en tout cas déclenché une crise politique majeure, mais Emmanuel Macron semble très content de lui. Hier encore, il s'est vanté d'avoir pris la décision la plus démocratique qui soit.
C'est peut-être une décision constitutionnelle légale, mais est-ce que c'est une décision politique et démocratique responsable, nous le verrons le 30 juin et le 7 juillet.
Voilà, elle pourrait s'avérer la plus risquée aussi.
C'est un risque insensé, voilà, qu'a pris le président de la République. Insensé parce que si on regarde les projections basées sur les calculs des législatives de 2022... Je parle bien des législatives de 2022, puis la série de scrutins qui est arrivée depuis, notamment européenne. Eh bien, sur les 577 circonscriptions, le parti et les alliés de Monsieur Macron pourraient avoir, écoutez bien, entre 12 et 80 députés à la fin. Des élections. Donc pour quelqu'un qui souhaite gagner les élections, on peut pas faire une majorité relative avec même moins de 100 députés. Et pourquoi ? Parce que justement, il y a deux blocs bien constitués, et là on est dans un scrutin à deux tours. Donc il y a une mécanique électorale. Il faut avoir 12% des inscrits pour se qualifier pour le deuxième tour. Et bien sur les 577 circonscriptions, il y en a plus de 453 où il peut y avoir simplement une opposition entre le Rassemblement national et ses petits alliés et le Front populaire constitué de l'ensemble des partis de gauche.
Mais est-ce que Macron souhaite vraiment gagner ces élections ou est-ce qu'il prend exprès le risque de les perdre de sorte que le Rassemblement soit forcé de prendre des responsabilités ?
Je pense que le président Macron a sauté quelques pages de Machiavel. Il pense jouer un jeu peut-être machiavélique, c'est-à-dire d'essayer d'essouffler le vainqueur, que ce soit le Rassemblement national ou les gauches pour les présidentielles de 2027. Mais qui peut parier de la réussite ou de la non-réussite du nouveau gouvernement qui sortirait des urnes, qu'il soit de la coalition des gauches ou qu'il soit du Rassemblement national. Donc ce genre de pari, ça a existé dans l'histoire de la République française et dans l'histoire politique française. À chaque fois, ça s'est retourné contre ses initiateurs. Louis-Philippe, le premier roi des Français, le président MacMahon en 1877, et qui a été, lui, acculé à la démission après avoir perdu la dissolution des chambres.
Macron exclut de démissionner quoi qu'il arrive.
Il disait qu'il excluait de dissoudre la chambre après les résultats des élections européennes. Aujourd'hui, il dit qu'il renoncera, il voudra se maintenir. Mais nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Cela dépend du contexte, de l'ampleur de la majorité parlementaire. Mmh. Cela dépend aussi de tensions sur certains dossiers. En revanche, le président Macron peut s'appuyer, par contre, sur les autres institutions qui encadrent l'État français, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes et tout un tas d'autres organismes. Donc, cela peut être une cohabitation. Faut-il encore que ce soit définitivement ce résultat. Mais si c'est une cohabitation, il y a quand même des freins. D'ailleurs, mm-hmm. les partis qui se présentent, notamment le Rassemblement national, disent déjà « Ah, nous ne pourrons pas faire tout ce que nous voulons parce que nous serons empêchés ». Donc, voilà. Mais ce pari sur l'avenir de dire qu'on va essouffler les adversaires politiques, dans toute mm-hmm. l'histoire politique, cela s'est retourné toujours à l'initiateur.
Et contre l'initiateur. En tout cas, la cohabitation est l'hypothèse la plus plausible
oui.
à ce jour.
À ce jour, on ne sait pas à ce jour qui sera le vainqueur, par contre.
Ouais. Ça peut être l'extrême droite
ou le Front populaire, parce qu'il y a une mécanique de deuxième tour, ouais. de dynamique électorale. Et là, on voit dans les premiers sondages qui sont sortis que le Rassemblement national est crédité autour de 32% plus 10% pour ses alliés, donc c'est 42%, et le Front populaire est déjà à presque 28%.
Ouais. Le Front populaire qui a d'ailleurs fait de l'indexation des salaires une pièce maîtresse de son
Bien
programme
sûr.
Électoral. Voilà, passons à l'autre sujet de notre entretien, l'étude Pollindex 2024 que vous venez de publier, une étude réalisée annuellement pour constater toute évolution dans les comportements politiques au sein de notre société. Et là, vous avez fait un constat intéressant, de plus en plus de convergence entre les communautés luxembourgeoises et étrangères résidant au pays. Vous l'expliquez comment ?
Eh bien, c'est la même socialisation politique et la même construction de l'opinion politique et aussi le partage des conditions de vie économique et sociale. C'est-à-dire que progressivement, les Luxembourgeois comme les étrangers se considèrent faisant partie du même bateau social et économique. Au travail, dans la vie associative, dans le système des loisirs, mais aussi dans l'identification par rapport aux institutions. Alors, cette convergence n'est pas nouvelle. Elle est née déjà depuis environ une petite dizaine d'années. Mais elle s'accélère. Et c'est ça qui est le plus surprenant. À la fois en termes de valeurs politiques, valeurs sociales, valeurs économiques, mais aussi en termes d'éventuels comportements politiques.
Donc les préférences politiques convergent également.
Les préférences politiques convergent. La structuration du vote converge. C'est-à-dire, par exemple, généralement aux européennes, les étrangers inscrits qui votaient surtout pour des votes de liste. Parce qu'ils ne sont pas habitués, pour la plupart d'entre eux, au système de vote préférentiel. Eh bien, là, en 2024, de nouveau, on voit une convergence du vote de liste à peu près dans les mêmes proportions entre les Luxembourgeois et les étrangers résidents. Donc là, c'est une convergence de comportement.
Donc,
pas simplement de valeur.
Cela veut dire que le vote des étrangers, s'il avait lieu, ne changerait pas grand-chose au résultat final
non.
des élections.
Prenons un exemple. En 2019, on avait étudié le vote des étrangers aux européennes, par exemple. Et qu'est-ce qu'on avait constaté ? Eh bien, il s'alignait presque parfaitement sur la tendance de l'époque, c'est-à-dire une amplification du vote des libéraux et des verts. Et dimanche dernier, leur vote distribué est à peu près similaire à ceux des Luxembourgeois.
On a presque l'impression que les Luxembourgeois la ressentent, cette convergence, inconsciemment peut-être, ou comment expliquer que 9 ans après le référendum, l'opposition au droit de vote pour étrangers a diminué de 30 points de pourcent selon votre sondage.
Bien, justement, c'est la poutre qui travaille, si on peut dire, c'est-à-dire que de plus en plus de Luxembourgeois prennent conscience qu'ils ont aussi une communauté politique de destin avec leurs voisins résidants étrangers. C'est ça que ça veut dire, cette transformation vis-à-vis de cette position. Alors, cela étant dit, c'est un sondage qui ne se situe pas en cas de question référendaire. Dans une question référendaire, oui. Il peut y avoir d'autres dynamiques de campagne. Mais tout de même, et ce n'est pas la première fois qu'on voit cette tendance baissière au refus d'accorder le droit de vote aux étrangers aux élections législatives après 10 ans de résidence.
L'étude, basée sur un sondage, a été réalisée avant les élections du week-end dernier. Est-ce que vous avez pu anticiper le résultat de ces élections ?
Alors,
est-ce qu'il était prévisible ?
Alors, Pollindex n'est pas un instrument de prophétie électorale, mais le nombre de données, les questions croisées, nous permettent quasiment à chaque fois d'anticiper les résultats au siège près. Alors là, c'était plus facile parce qu'il y a 6 sièges en jeu, et nous avions présenté à la Chambre des députés le 3 juin exactement les tendances qui se sont confirmées dans les urnes, avec toujours une chose qu'il faut faire toujours attention dans le scrutin au Luxembourg, c'est quand même, il y reste toujours presque 36% d'électeurs et d'électrices qui se déterminent dans la dernière semaine. Donc, nous avons des convergences de résultats qui nous permettent d'anticiper le résultat final, mais avec toujours cette petite sonnette en disant « attention ». Mais là, ça s'est vérifié de nouveau.
Donc, ni le fait que l'ADR a pour la première fois de son histoire gagné un siège, ni celui que les Verts aient pu garder le leur ne vous a surpris?
Non, parce qu'on voyait une montée importante du vote de liste en faveur de l'ADR, et nous avions souligné le fait que l'ADR, par cette montée du vote de liste, pouvait obtenir un siège, et que les Verts, par le système de vote préférentiel qui se maintenait relativement haut à l'intérieur des électorats des gauches, pouvait aussi de justesse maintenir son siège.
Par rapport aux élections législatives du mois d'octobre dernier, les deux partis de la majorité ont fait des scores moins élevés. Est-ce qu'on peut y voir un vote sanction ou au moins un signe d'insatisfaction des électeurs avec le travail du nouveau gouvernement?
Alors, nous avions une question sur le comment jugez-vous le bilan du gouvernement actuel? Les Luxembourgeois donnaient une note de 5,3 sur 10 au gouvernement actuel, donc de son bilan depuis les 7 derniers mois. Alors, c'est légèrement majoritaire, mais ce n'était pas un résultat très important.
Surtout pas 8 mois après les élections,
Même moins, et d'autant plus que le gouvernement tripartite qui existait avant l'automne avait un taux d'approbation légèrement supérieur au gouvernement actuel. Alors, il se peut que des électeurs ont profité des élections européenne pour donner quelques signes en disant soit d'accélération peut-être de réforme ou d'impatience sur certains sujets, d'autant plus que les sujets les plus importants de Pollindex 2024 sont exactement les mêmes que ceux de 2023. C'est-à-dire, la question politique principale au Luxembourg reste la question du logement. Et donc, forcément, s'il y a une continuité d'insatisfaction sur certaines questions de ce type-là, le gouvernement est attendu sur ces questions-là.
L'étude Pollindex fournit une multitude d'autres informations. Elle peut être consultée en ligne et sur le site de l'université et sur celui de la Chambre des députés. Nous allons d'ailleurs indiquer le lien dans l'article qui sera publié au cours de la journée sur cet entretien, pour lequel je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Poirier.
Merci.
An wie ma sucht das Interview, lo ganz gleich disponibel auf dem Internet, 100,7.lu, das Feierl bis 8.